Chers camarades, chers amis, travailleuses, travailleurs. Je suis très heureuse d'être parmi vous à l'occasion de ce banquet. Et vous savez que c'est une tradition à laquelle nous tenons, parce que ces moments de fraternité sont des moments précieux. C'est donc la seconde fois que je participe à ce banquet. La dernière fois, c'était l'année dernière, le dernier jour de la campagne pour les élections régionales. C'était donc il y a un an. Eh bien, si en un an, il y a eu des choses qui ont changé, c'est en pire. La galère des transports continue, la galère pour se loger et pour trouver un vrai travail continue, et en plus de tout cela, tous les prix sont en train de flamber. Parce que tout augmente, le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances et bien sûr le carburant. Tout augmente de 4, 5, 10, 20% pour le gaz cette année. Mais qui parmi nous a vu son salaire, sa pension de retraite ou ses allocations augmenter à ce rythme? Personne. Alors on est tous là à jongler avec les impayés, avec les factures, avec les dettes. Et malgré tout cela, on nous annonce encore des augmentations. D'ici 2015, l'électricité pourrait augmenter de 30%. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on a forcé EDF à vendre de l'électricité à des concurrents privés pour permettre à ces messieurs les capitalistes de faire aussi leur beurre là-dessus. Alors en plus d'entretenir EDF, eh bien il va falloir entretenir Poweo, Direct Energy, GDF Suez. Et bien sûr que dans ces circonstances, les prix ne peuvent qu'exploser. Alors ceux qui auront l'argent, eh bien ils payeront, y compris en se privant sur autre chose. Mais ceux qui se privent déjà sur tout, comment feront-ils? Ils arrêteront de se chauffer? Ils arrêteront peut-être aussi le réfrigérateur? Ou alors, est-ce qu'on leur installera une petite boîte où ils pourront payer le kilowattheure quand ils auront quelques euros devant eux? On nous dit souvent qu'on exagère et qu'on n'est plus au 19e siècle. Mais si on les laisse faire, ils vont nous faire revenir au 19e siècle. Et puis là-dessus, le gouvernement ose nous dire qu'il va falloir faire des sacrifices parce que les déficits se sont creusés et qu'il faut rembourser la dette. Mais qui a fait cette dette? Qui a creusé ces déficits? C'est vous? C'est moi? Mais on n'en a pas vu la couleur de cet argent. Mais souvenez-vous, des dizaines de milliards, des centaines de milliards qui ont été donnés aux banquiers pour les renflouer. Souvenez-vous des cadeaux faits aux grands industriels de l'automobile. Et ces milliards de cadeaux, ils se sont rajoutés aux milliards d'exonérations et d'aides en tout genre qu'on leur donne en permanence. Alors il ne faut pas chercher plus loin. L'argent qui manque dans les caisses de l'État, l'argent qui manque dans les caisses de la Sécurité sociale, il est passé dans les poches de la bourgeoisie. Cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie. C'est elle qui est redevable, alors c'est elle qui devrait la rembourser. En attendant, c'est sur nous que ça retombe. Sur les travailleurs, sur les chômeurs, sur les plus pauvres. Quand le gouvernement recule l'âge de départ à la retraite, qu'est-ce que ça fait aux banquiers? Ils s'accrochent à leur fauteuil à 65, 70 ans, tellement la place est bonne. Et arrêter de travailler à 65, 67 ans, qu'est-ce que ça peut bien faire à ces capitalistes, à tous ceux qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, si ce n'est toucher aux dividendes du capital dont ils ont hérité? Et regardez Madame Bettencourt, elle a été à la retraite toute sa vie, alors vous pensez que ça la concerne? Quand le gouvernement recule l'âge de départ à la retraite, quand le gouvernement dérembourse des médicaments et augmente les franchises médicales, c'est la même chose, ça ne touche pas les plus riches. Parce que eux, ils se soigneront toujours. Ils paieront plus cher, mais ils se soigneront. Mais combien d'entre nous hésitent pour aller consulter un médecin ou pour aller chez le dentiste? Combien d'entre nous hésitent pour acheter ce qu'on appelle maintenant les médicaments de confort. Alors c'est vrai que pour les maladies graves, on arrive encore à se faire soigner, et assez bien même. Mais pour tout un tas de problèmes de santé, eh bien on se soigne de moins en moins. Et on recule comme ça sur un tas de choses. Vous savez que désormais, les indemnités journalières perçues à l'occasion d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle sont soumises à impôt pour la moitié de leur montant. Pour le gouvernement, c'est une rentrée de 150 millions d'euros. 150 millions. Mais c'est une broutille par rapport aux 150 milliards de déficit budgétaire. Mais pour le gouvernement et pour le grand patronat, eh bien, il n'y a pas de petites économies à faire sur le dos de la population. Tout est bon à prendre et prendre dans les poches des travailleurs malades, accidentés, handicapés, eh bien, ça ne le dérange pas. Dans la même veine, la caisse d'allocation familiale a changé le calcul de l'APL et elle a supprimé les 3 mois de rétroactivité qui existaient. Eh bien, ça fait 240 millions d'économies. 240 millions d'économies prises sur l'aide personnalisée au logement, ce qui concerne vraiment, mais alors vraiment que les plus modestes. Eh bien, c'est comme ça, avec une multitude de mesures qu'on ignore bien souvent, parce qu'on n'est pas directement concerné ou parce qu'elles nous semblent secondaires. Mais c'est avec ces mesures-là, mises bout à bout, qu'on nous fait les poches. C'est comme ça que nos droits reculent et c'est comme ça aussi que toute la société se dégrade. Et tout ça parce que la bourgeoisie et les plus riches ne veulent pas payer pour les dégâts qu'ils ont eux-mêmes causés. Au contraire, mais quand leurs affaires vont mal, ils trouvent normal de demander des dizaines de millions, de milliards à l'État pour qu'il les aide. Combien même ils sont riches. Mais ces gens-là, ils pleurent la bouche pleine. Ils n'en ont jamais assez. Eh bien, je vous le garantis, c'est eux qui vont mettre la colère dans la classe ouvrière. C'est eux, avec leur arrogance, avec leur cupidité, avec toutes ces ignominies, qui mettront le feu aux poudres. Pour l'instant, les travailleurs reculent, et pas seulement sur le plan matériel. Il y a aussi un recul politique, un recul de la conscience de classe. Il y a eu toute une période où la classe ouvrière était fière de ce qu'elle était, fière de faire tourner l'économie et consciente d'être à l'avant-garde des combats qui faisaient avancer la société. Une partie importante des travailleurs se disait fièrement socialiste ou communiste et militait au Parti communiste ou dans les syndicats. Et cela ne voulait pas dire seulement qu'ils allaient voter pour les socialistes ou pour les communistes. Cela voulait dire qu'ils avaient un idéal, qu'ils défendaient l'idée d'une société sans exploitation, sans propriété privée des usines, sans la loi du profit. Cette conscience et cet idéal ont reculé au fur et à mesure des déceptions et de la démoralisation engendrées par les gouvernements de gauche qui se sont succédés. Beaucoup de travailleurs, et même des militants, se sont sentis trahis par ces gouvernements, tout en se disant socialiste, privatiser à tour de bras, fermer les usines et imposer aux travailleurs les sacrifices que demandait la bourgeoisie. L'abandon par le Parti socialiste des vraies, des véritables idées socialistes et par le Parti communiste des véritables idées communistes ne date pas d'hier. C'est une évolution de longue date où ces partis se sont laissés gangréner par le réformisme, ce qui les a amenés jusqu'à réprimer, y compris férocement, des luttes de la classe ouvrière. Et puis, il y a eu cette plaie du stalinisme qui a dénaturé l'idéal communiste. Eh bien, tout cela, nous le payons encore aujourd'hui. Alors oui, la classe ouvrière doit remonter la pente, reprendre conscience de ses intérêts de classe et de l'immense force sociale qu'elle représente. Mais cette force sociale, elle existe et elle est intacte. Cette force, on l'a senti lors des grèves et manifestations de septembre-octobre, contre le recul de l'âge de la retraite. On a redécouvert ce que c'était de manifester par milliers, par centaines de milliers. Ouvriers sur chaîne, ouvriers de chantier, cheminots, enseignants, infirmières, salariés de toutes petites entreprises, on s'est retrouvés au coude à coude pour dénoncer la même chose, des conditions de travail de plus en plus pénibles et un ras-le-bol d'avoir à payer toujours et encore alors qu'une la minorité de plus riches continue d'accumuler des fortunes. Mais les grèves sont restées limitées, en particulier dans les grandes entreprises. En fait, elles ont touché essentiellement les cheminots et les travailleurs des raffineries. Et la bourgeoisie n'a pas craint pour ses profits. À aucun moment le patronat ne s'est senti acculé. À aucun moment le patronat ne s'est senti menacé, comme il a pu l'être en mai-juin 1936 lors des occupations d'usines. Alors, nous n'avons pas réussi à le faire reculer. Mais nous avons redécouvert, conformé une seule et même classe ouvrière. On a redécouvert que la classe ouvrière pouvait agir en tant que telle et défendre ses propres intérêts. Eh bien, c'est précieux pour l'avenir. Parce que les luttes, elles ne sont pas derrière nous, elles sont devant nous. Et on peut être optimiste. Regardez quel homme fort le gouvernement s'est trouvé. Alain Juppé. Mais en 1995, cet homme fort, eh bien, il a dû remballer son plan d'attaque contre les retraites et contre la sécurité sociale, face aux manifestations et aux grèves massives des travailleurs. Et même s'il se disait droit dans ses bottes, eh bien, il s'est incliné face à plus fort que lui. En mai-juin 1968, le pouvoir fort de Gaulle a été ébranlé et affaibli par la force plus puissante encore des travailleurs entraînés dans la grève par les étudiants. Lorsque les travailleurs entrent en lutte, lorsqu'ils se mettent en grève pour de bon, eh bien il n'y a plus d'homme fort, il n'y a plus de pouvoir fort. La seule force qui compte, c'est la force des travailleurs. Parce que sans leur travail, la société elle ne tourne plus. Il n'y a plus d'argent qui rentre, il n'y a plus de profits qui se font, et la bourgeoisie le sait, elle peut en crever. Et puis, une autre raison d'être optimiste, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe. Oh, il y a du chemin à parcourir pour que les travailleurs de Tunisie et d'Égypte aient la volonté consciente de mettre en avant leurs revendications de classe. En Tunisie, comme en Égypte, les révoltes ont entraîné tout un tas de catégories sociales. Des étudiants, des avocats, des ouvriers, des chômeurs, des petits commerçants. Parce que la dictature, elle pesait sur tout le monde. Leur mot d'ordre commun était le départ du dictateur et la chute de la dictature. Les travailleurs avaient bien sûr toute leur place dans ce combat et ils l'ont prise. Mais ils se sont fondus dans ce mouvement qui en restait à cet objectif limité. Et ces combats pour les intérêts propres aux travailleurs contre l'exploitation capitaliste, eh bien, ils restent encore à mener. Mais le fait tout simple de ces révoltes nous conforte dans nos convictions. Les peuples de Tunisie et d'Égypte ont montré que d'un jour à l'autre, la résignation et la peur peuvent laisser place à la révolte, au courage et à la détermination farouche. Ils ont montré que lorsque les masses populaires se soulèvent, elles peuvent peser sur la politique et imposer bien des choses. Tous ceux qui doutent de la combativité des opprimés en général et qui ne croient pas dans leur capacité de révolte, eh bien, ils ont la preuve sous les yeux qu'ils se trompent. Oui, on peut supporter l'oppression des années, des décennies durant, mais il y a un jour où cela explose. Et dans ces moments-là, ce n'est pas la combativité, ce n'est pas l'abnégation, ce n'est pas l'héroïsme qui manque. Ce qui manque, c'est une politique pour les travailleurs et de véritables partis qui puissent la porter. La révolte dans les pays arabes est partie de la misère, du chômage, des inégalités qui font qu'en Égypte, la grande majorité de la population vit avec moins de 2 euros par jour. C'est autour de la revendication du pain et du travail que les premières manifestations se sont organisées en Tunisie. Mais comment l'imposer? Comment obtenir du pain et du travail pour tous? Comment mettre fin au chômage? Eh bien voilà les questions qui se posent aux travailleurs et aux chômeurs de Tunisie et d'Égypte. Et il faut qu'ils se méfient, comme de la peste, de ceux qui leur assènent de vagues promesses et qui leur font croire que le plus gros chemin est fait depuis que Ben Ali et Moubarak sont tombés. On connaît bien ici tous ces menteurs qui nous expliquent qu'il suffit de remplacer la droite par la gauche pour que les choses changent pour les travailleurs. Eh bien, ceux qui, en Tunisie, expliquent qu'il suffit d'avoir remplacé Ben Ali par la démocratie pour que le sort des travailleurs et des plus pauvres change, sont des menteurs de la même espèce. La bourgeoisie locale et la bourgeoisie française, européenne, qui exploitait les masses ouvrières sous Ben Ali, veulent continuer à le faire sous couvert d'autres dirigeants et des postulants à ce rôle-là, on peut dire qu'il y en a. Dans une multitude d'entreprises en Tunisie, les travailleurs se sont organisés et ont imposé ici des augmentations de salaire, là des embauches. Eh bien, nous espérons bien sûr que ces grèves qui se poursuivent et qui s'étendent seront victorieuses. Mais ce qui sera précieux pour l'avenir, c'est que ces grèves et ces manifestations fassent naître une génération de militants. Nous espérons qu'il y aura des dizaines, des centaines de milliers de travailleurs qui apprendront de toutes ces luttes, des victoires comme de leurs défaites, et qui renoueront avec les idées communistes révolutionnaires pour être capables de donner des perspectives politiques à la classe ouvrière, et pas la perspective dérisoire d'un changement de clan au pouvoir qui ne change rien à leurs conditions, mais la perspective du renversement de l'ordre établi. Depuis des semaines, on veut nous faire croire qu'il y a eu des maladresses dans la diplomatie française et que la France a été de ce fait incapable de se mettre aux côtés des peuples en révolte. Mais la politique étrangère ne s'est jamais intéressée aux peuples. La politique étrangère ne s'intéresse qu'aux affaires, qu'aux intérêts des capitalistes, qu'aux ventes d'armes, qu'au pétrole. Si pendant les 23 ans du règne de Ben Ali, il n'y a pas eu un ministre, il n'y a pas eu un gouvernement pour dénoncer sa dictature, les arrestations arbitraires, les tortures et le pillage de l'économie par son clan, ce n'était pas pour les beaux yeux de Ben Ali, c'était pour Carrefour, pour France Télécom, pour Téléperformance, pour Valeo et bien d'autres encore qui faisaient de belles affaires en Tunisie. Vous pensez qu'ils pouvaient exploiter des travailleurs aussi qualifiés qu'ici en les payant 10 fois, 20 fois moins? Et cela dans le calme le plus plat, puisque justement Ben Ali y veillait. Et si Sarkozy s'est plié au caprice ridicule de Kadhafi et lui a déroulé le tapis rouge à l'Elysée, c'est que les capitalistes, en particulier les marchands d'armes, trépignaient. Ils ne voulaient pas être les derniers à signer des contrats avec la Libye. Alors, la politique extérieure de la France, elle n'est pas décidée au gouvernement. Elle est dictée par Bouygues, Bolloré, Dassault, Areva. Et que ce soit sous la gauche ou sous la droite, la diplomatie a un axe très simple, être utile aux bonnes affaires des capitalistes français. Et il en va de même pour la politique intérieure. La responsabilité de Sarkozy et de son gouvernement dans l'aggravation de la condition ouvrière est écrasante. Mais il faut comprendre que cela vient de plus loin. Cela vient du grand patronat. Sarkozy est en première ligne, parce que c'est à lui d'assumer les décisions de l'État. Mais c'est le grand patronat, c'est la grande bourgeoisie qui commande. Sarkozy ne fait que les servir. Il obéit. Oh, c'est un bon serviteur qui va même au-devant des désirs de ses maîtres. Et la haine qu'il suscite dans les classes populaires, eh bien, il la mérite amplement. Mais il n'est que le laquais de service. Et demain, il y en aura un autre. Les vrais maîtres de la société, ce sont les Peugeot, les Bouygues, les Arnaud, les Michelin. Regardez Madame Bettencourt, une des premières fortunes de France. Elle n'est pas au gouvernement. Elle ne s'est même jamais présentée à aucune élection. Mais elle achète des ministres. C'est encore mieux. Regardez l'affaire du Mediator. Comment le groupe Servier, qui commercialisait ce poison, a su acheter, avec sa puissance financière et économique, la complicité des experts médicaux. Il a su mettre de son côté l'administration sanitaire, la sécurité sociale, qui a remboursé jusqu'au dernier moment ce poison. Et puis, tous les ministres qui se sont succédés, alors que plusieurs cas mortels étaient dénoncés par certains médecins. Eh bien oui, les capitalistes, avec leur fortune et de par le pouvoir économique qu'ils représentent, ils ont l'appareil d'État, les rouages de l'administration et le gouvernement à leurs bottes. Et c'est vrai pour toutes les grandes fortunes, c'est vrai pour tous les hommes d'affaires. Ce sont eux qui dictent la politique au gouvernement. Alors, tous ceux qui expliquent qu'en 2012, notre sort peut changer si nous votons bien, sont des menteurs. Parce que même si nous nous débarrassons de Sarkozy, on aura toujours ce même grand patronat, insatiable. Et si les dirigeants socialistes reviennent au pouvoir, qu'est-ce qu'ils feront? Ils empêcheront le grand patronat de fermer des usines? Ils empêcheront de licencier? Est-ce qu'ils forceront le grand patronat à augmenter les salaires? Est-ce qu'ils les obligeront à embaucher les intérimaires, les apprentis pour soulager le travail des anciens? Mais non, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas parce qu'ils ne l'ont jamais fait et parce que même aujourd'hui dans l'opposition, ils ne le promettent pas. Sanofi à 26, 3 milliards pour Renault, 1 milliard pour PSA, et je ne parle pas de toutes les grandes banques. Alors qu'est-ce que ça leur coûterait d'augmenter de 300 euros, de 400 euros les salaires? Qu'est-ce que ça leur coûterait d'embaucher? Ça leur coûterait rien, c'est une goutte d'eau pour eux. Les actionnaires du CAC 40, qui ne sont que des parasites, vont toucher cette année 40 milliards d'euros. Et le Parti socialiste dit aux travailleurs qu'il faut attendre pour des augmentations de salaire. La seule promesse du Parti socialiste, c'est sur les retraites. Ils sont pour la retraite à 60 ans, mais à condition d'avoir cotisé 41 annuités et demie. Alors vous parlez d'une promesse. Même dans l'opposition, les dirigeants socialistes sont à plat ventre devant la bourgeoisie. Alors vous imaginez au pouvoir? Et ne vous y trompez pas, c'est à eux que Jean-Luc Mélenchon et que le Parti communiste veulent accrocher leur char. Eh bien, ce sera sans nous. De plus en plus de travailleurs comprennent qu'entre la gauche au pouvoir et la droite au pouvoir, il y a peu de différence. Il n'y a pas la même arrogance chez les dirigeants socialistes que chez ceux de droite, mais ça ne fait pas des fins de mois plus faciles. Alors à la longue, cette alternance au pouvoir finit par dégoûter beaucoup de monde dans les milieux populaires. Cela amène certains travailleurs à ne plus aller voter. C'est certainement mieux que de croire dans le Père Noël, mais ça ne fait pas une politique pour les travailleurs. Quant à ceux, parmi les plus pauvres, qui ont choisi de voter pour le Front National, c'est bien pire. Le camp de Le Pen, c'est le camp de la réaction. Le noyau dur de son électorat, ce sont les milieux conservateurs, calotins, hostiles, depuis toujours aux travailleurs. Ce sont les petits commerçants et artisans qui trouvent que les ouvriers ne travaillent pas assez, parce que eux, c'est pas 35 heures qu'ils font, c'est 40, 45, 50 heures par semaine. C'est cet électorat Le Pen qui ne supporte pas que les travailleurs revendiquent et fassent grève. C'est eux qui accusent les chômeurs, qui accusent les jeunes qui ne trouvent pas de travail de vivre au crochet de la société. Alors il faut dire à ceux parmi les plus pauvres qui seraient tentés par le Front National, ne mêlez pas votre voix à ces gens-là. C'est vrai, la droite traditionnelle fait tout pour dégoûter les chômeurs et les catégories les plus mal payées. Mais ça, c'est dans l'ordre des choses. Le problème, c'est que la gauche, du Parti Socialiste au PC, déçoit tout autant. Ce sont eux qui font le lit du Front National dans les classes populaires, par leur démission, par leur couardise devant la bourgeoisie. Mais croire qu'on peut tous les rejeter, du Parti Socialiste à l'UMP, en votant pour le Front National, c'est se tirer une balle dans le pied. Voter pour le Front National, c'est voter pour la même politique que Sarkozy en pire. Comme Sarkozy, le Front National est un défenseur des riches, un défenseur de la propriété, un défenseur de la société telle qu'elle est, avec l'exploitation capitaliste, avec ses inégalités, avec ses injustices. Au lieu de dénoncer la classe capitaliste, les rentiers, au lieu de dénoncer ceux qui sont responsables du chômage parce qu'ils licencient, Marine Le Pen jette en pâture les travailleurs immigrés qui font partie de nous-mêmes. Eh bien, voilà, le Front National cherche à monter une partie de la classe ouvrière contre une autre. Eh bien, rien que cela fait de Marine Le Pen une ennemie mortelle pour les travailleurs. Par-delà les origines, par-delà la couleur de peau et les différences de croyances, la société est surtout divisée en classes sociales. Elle est divisée entre riches et pauvres, entre travailleurs et exploiteurs. Quel point commun y a-t-il entre les ouvriers, même français, et les grands actionnaires français? Ils ne vivent pas dans les mêmes quartiers, ils ne mangent pas dans les mêmes restaurants. Quant à passer une journée entière sur une chaîne de montage ou à une caisse de supermarché, cela n'est jamais arrivé à aucun de ces grands actionnaires. Mais c'est le lot quotidien de millions d'ouvriers, d'employés d'origine française, marocaine, algérienne, tunisienne, italienne, espagnole. Quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine, ils partagent ce sort-là en commun et ils doivent se défendre ensemble. Et c'est une lutte de tous les jours. Parce que c'est tous les jours qu'il faut résister aux augmentations de cadence, aux augmentations de charges de travail. C'est tous les jours qu'il faut se battre simplement pour que le droit à la pause soit respecté, pour que les heures supplémentaires soient payées ou pour que les accidents du travail soient reconnus en tant que tels. Parce qu'entreprise par entreprise, usine par usine, le patronat mène une véritable guerre de tranchées pour faire travailler toujours plus les ouvriers et pour les payer toujours moins. C'est la lutte de classe, c'est la guerre de classe. Ce sont peut-être de vieux mots, mais il n'y en a pas d'autres. Certains sont béats d'admiration devant les magnifiques bénéfices des grands groupes industriels, parce qu'ils ont augmenté de 10, 20, 80%. Mais il n'y a pas de miracle. 10% de bénéfices en plus, c'est 10% pris au monde du travail. C'est aussi simple que cela. Tous leurs profits, ils les tirent de notre exploitation à nous tous. Leurs profits, ils les font sur notre dos et leur prospérité, eh bien, elle est à la mesure de l'appauvrissement du reste de la société. C'est sur la base de cette conscience-là que nous pourrons réellement nous défendre et changer notre sort. Pour vivre mieux, avec de meilleurs salaires, et sans que les uns soient condamnés au chômage pendant que les autres se tuent au travail, eh bien, il faudra combattre l'exploitation, combattre le parasitisme et la dictature des capitalistes sur l'économie et sur la société. Tant que les travailleurs ne pèseront pas sur la politique et sur le patronat, avec leurs propres armes de classe, la grève, les manifestations, il ne se passera rien de décisif sur le plan politique. Rien, en tout cas, qui soit en faveur des travailleurs. Tant que les travailleurs ne rendront pas coup sur coup dans la guerre de classe, rien de fondamental ne changera. Nous resterons soumis aux inégalités, aux injustices et aux crises de ce système complètement fou. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Les médias en font déjà un événement politique majeur. Et c'est sûr que pour eux, ça en sera un. Il n'y a qu'à voir le cirque qu'ils ont fait à l'occasion de ce mini-remaniement qui a tout juste servi à remettre en selle de vieux chevaux de retour comme Longuet et comme Juppé pour imaginer ce que ça va être pour l'élection en 2012. Et pourtant, l'élection présidentielle de 2012, ce ne sera qu'un remaniement de plus, en version plus large, bien sûr, mais ce ne sera rien de plus qu'un remaniement où on va changer les têtes sans que la politique ne change. Après tout le mal que je vous ai dit des élections de 2012, je tiens à préciser que Lutte ouvrière y participera en présentant ma candidature. Parce que si nous n'avons pas d'illusions à nous faire sur les changements qui en suivront, eh bien nous pourrons au moins nous exprimer et on ne s'en privera pas. Je défendrai plus largement à la radio et à la télévision les mêmes idées que je vous ai présentées ce soir. Comme nous le faisons en militant tous les jours dans les entreprises et dans les quartiers, je défendrai non pas un programme électoral, mais un programme de lutte pour les travailleurs. Et c'est pour cela que je commencerai mes discours, comme Arlette l'a toujours fait, avec travailleuses, travailleurs. Et nous redirons que oui, on peut s'attaquer aux deux catastrophes qui frappent le monde du travail, le chômage et les bas salaires. Le chômage n'est pas une fatalité. On peut le faire disparaître en imposant au patronat l'interdiction des licenciements et en imposant que le travail soit réparti entre tous sans diminution de salaire. On peut aussi stopper la baisse du pouvoir d'achat en imposant une augmentation générale des salaires et des pensions de retraite et en les protégeant de l'inflation par l'échelle mobile des salaires. Mais pour cela, vous l'avez bien compris, il faudra des luttes puissantes. Mais ces luttes, elles peuvent nous surprendre, comme nous avons tous été surpris par les révoltes du monde arabe. Pendant des décennies, ces peuples ont subi et se sont résignés jusqu'au jour où, en Tunisie, un vendeur de rue s'est immolé et la révolte s'est embrasée dans tout le pays. Et à partir de là, cette révolte s'est propagée de Tunisie, en Égypte, en Libye, au Yémen, au Bahreïn. Alors, quand nous parlons d'une explosion sociale, nous ne rêvons pas. Une telle situation explosive, imprévisible, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement, voilà ce que la bourgeoisie craint plus que tout. Et voilà ce que nous, nous souhaitons. parce que c'est seulement une réaction massive, explosive du monde du travail qui pourra arrêter les coups portés à la classe ouvrière. Et puis, nous le souhaitons aussi, parce que c'est lorsque la mobilisation s'élargit et s'approfondit que les travailleurs peuvent apprendre à diriger eux-mêmes leur lutte et qu'ils peuvent découvrir qu'ils sont non seulement capables de cela, mais qu'ils peuvent aussi diriger toute la société et même beaucoup mieux que les capitalistes. Et nous pensons, en tant que communistes révolutionnaires, que les travailleurs pourront alors faire des choses grandioses. Exproprier la bourgeoisie, débarrasser la société de l'exploitation et de ses exploiteurs, et fonder une société où les travailleurs ensemble dirigeraient l'économie, non pas pour qu'elle enrichisse une minorité, mais pour qu'elle réponde aux besoins de tous. J'en ai fini. Alors, camarades, je vous souhaite de passer un bon moment.